Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors ça y est, on peut enfin spoiler la saison 2 de Star Trek Prodigy comme des fous, puisque les épisodes sont enfin disponibles sur Netflix après des mois d'exclusivité pour le public français via France Télévisions. On va en parler pendant l'heure qui vient. Engage.
We're just a bunch of nobodies on a rock.
Get in, we gotta move.
Until we found each other.
Now,
look at us. Part of a classified mission.
Okay, our mission's objective. An unstable time rift. Let's begin.
I can't believe we're here.
We all have important roles to play on this ship.
Hiding something, and we're gonna find out what.
No!
We're not here for your cockamamie plans.
Ah! Working.
Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre capitaine par intérim, Cyril Michael. Salut Cyril.
Bonjour, bonjour.
Ça va?
Ça va très bien, chaudement. je suis sur Raisa, là, il fait très chaud.
Ok, et on est bien sûr avec notre ambassadrice, Giraffe. Salut Giraffe, comment ça va?
Ça va, il fait beau aussi, donc je me plains pas.
C'est vrai que normalement, on enregistre ce podcast au mois de juin, et normalement, il sera diffusé donc le 1er juillet, parce qu'on a attendu sagement que les épisodes soient sur Netflix à l'international pour pouvoir enfin en parler, et on imagine que l'été est enfin arrivé en France. En tout cas, on croise les doigts et on touche du bois en ce moment. Du coup, on va revenir quand même un petit peu, avant de parler des épisodes, sur ce qui s'est passé sur cette histoire de diffusion d'abord française. Donc là, on perd notre privilège français d'avoir des épisodes en exclusivité par rapport au reste du monde, puisque les épisodes ont été diffusés en priorité sur OCO, donc l'espèce de service replay jeunesse de France Télévisions. Donc on a eu toute la saison 2 d'un coup, en version française uniquement, pas de VOST, ce qui explique que on fait seulement les épisodes maintenant parce que la majorité du cadran pop, des membres du cadran pop, voulaient le voir en version originale sous-titrée. Donc c'est pour ça aussi qu'on a attendu le mois de juillet. Et donc voilà. Et finalement, Giraffe, la dernière fois que t'es venu, c'était pour parler de cette diffusion un peu chaotique, en tout cas surprise, qui avait été faite chez nous. Et figure-toi que la veille, enfin le jour même, le matin même de la diffusion en France, il y a eu une annonce qui avait été faite par OCO, tout à fait officielle, mais une annonce faite sur la page Facebook de OCO, qui n'est visitée par personne. Donc l'annonce a été likée par deux bonhommes, il y a eu un commentaire, et en fait on a vu ça une fois que toute la tempête médiatique de est-ce que c'était un leak, est-ce que c'était une erreur ou pas, était passée. Et si on avait vu donc ce post Facebook lâché le matin, eh ben en fait, on aurait su dès le début qu'effectivement, c'était pas du tout une erreur. Moi, par contre, j'ai une question pour toi, Giraffe.
Oui.
Donc, nous, en France, on s'est tenus. On a fait exprès de balancer zéro spoiler, en tout cas le maximum, sur les internets. Est-ce que tu sais si les Américains ont été spoilés?
Ah, non. Enfin, moi, je connais personne qui a été spoilé. Donc, évidemment, tu sais, tout le monde est monté sur ses grands chevaux immédiatement. Parce que c'est la plus grande peur. Alors, c'est marrant parce que moi, les spoilers, personnellement, ça me dérange pas du tout. Je vais quand même regarder, je vais quand même apprécier, même si je sais ce qui va se passer. J'ai des choses plus excitantes dans ma vie qui m'arrivent que de pas savoir le plot d'un... l'intrigue, pardon, d'un épisode. Mais ici, c'est... Surtout chez les Trekkies, c'est quand même... C'est le Graal, quoi. Les gens pleurent, les gens hurlent, les gens pètent des plombs sur les réseaux sociaux parce qu'on leur a spoilé le dernier Star Wars ou le dernier Star Trek. Donc non, personne n'a été spoilé. Les Français ont été très sympas. Je vais pas dire sage parce que juste sympa, hein, vous auriez totalement pu faire comme ce que les Américains font tout le temps. D'ailleurs, vous savez que Prodigy va sortir le 1er juillet aux États-Unis, mais pas partout dans le monde. Le Canada ne va pas avoir les 20 épisodes d'un coup.
Merde.
Voilà, donc on va voir si les Américains sont aussi sympas que les Français et ne spoil pas les Canadiens, mais on connaît tous la réponse.
C'est sûr. En tout cas, je sais, toi, Cyril, que tu as préparé une vidéo YouTube qui doit être sortie aujourd'hui même aussi.
Oui, qui retrace tous les easter eggs cachés dans toute la saison.
Waouh.
Voilà.
Est-ce que tu as fait un sous-titrage anglais comme je te l'avais conseillé?
Oui, oui, c'est en cours. Enfin, c'est en cours. C'est vrai que la date à laquelle sort l'épisode, ça sera fait.
Faut que tu te projettes dans le futur, un peu comme nos Prodigy, tu vois. Là, on est au 1er juillet, en fait.
J'ai pas lu l'article temporel 101, là. J'aurais dû le lire.
Alors, avant de parler uniquement des deux premiers épisodes, on va faire que ça. Je vais quand même vous demander, sans spoiler, votre avis sur cette saison 2, que vous avez maintenant toutes et tous vu en intégralité.
Alors, j'attends quand même de la voir en anglais. J'aurai bientôt la voir en anglais. Mais je vais dire que c'est une saison qui est très différente de la première. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de narration pour cette saison. C'est encore une fois une saison dont l'animation est juste magnifique. La musique, les graphismes, tout ça, ça ne déçoit pas. Et je vais dire que c'est aussi personnellement une saison que j'ai eu du mal à saisir personnellement. que j'ai quand même regardé deux fois déjà. Et je serais bien normal de la résumer à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la première saison. Donc j'attends avec hâte d'écouter les comptes rendus des épisodes par les nombreux podcasts Star Trek pour voir ce que tout le monde en tire, en fait.
Et ben moi, j'ai été beaucoup plus plongé dans cette saison-là que dans la première. Je me suis laissé plus facilement emporter par cet équipage un peu dissolu que j'avais moins aimé dans la première saison. Je me suis plus retrouvé dans du Star Trek, surtout avec ce format de doubles épisodes, on en parlera, mais la plupart des épisodes sont des doubles épisodes. Je sais pas comment expliquer ça clairement, mais...
En fait, là, il y a 20 épisodes de 25 minutes, et comme chaque épisode, en fait, c'est des couples d'épisodes pour former une histoire, on peut imaginer, on peut très bien le dire, c'est comme si on avait 10 épisodes de 45 minutes, par exemple.
Voilà, et je me suis laissé vachement mieux embarquer cette saison-ci. Il y a rien à redire, hein, sur l'animation qui est toujours aussi top, qui est toujours aussi classe. Les décors, les nouveaux lieux sont formidables. Non, cette saison 2, j'ai beaucoup plus accroché que la saison 1.
Je te rejoins là-dessus, c'est que Prodigy fait beaucoup d'explorations finalement. On visite pas mal de planètes, de nouveaux lieux. Et c'est plutôt agréable, hein, de voir ça, hein, que ce soit la planète de Gwendala ou d'autres planètes que je ne vais pas dire parce que c'est spoiler, hein, parce que là on va parler uniquement des deux premiers épisodes. Mais en tout cas, ouais, c'est une saison qui est à la fois très SF par des thèmes qu'elle va aborder. Elle va vraiment aller dans l'exploration, comme je le disais, parce qu'il y aura pas mal de lieux à visiter, etc. Et il y aura aussi un ancrage certain dans le passé, dont qu'on ne va pas aller plus en avant là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une saison qui est très complète pour du Star Trek. C'est-à-dire qu'on a vraiment un peu tous les ingrédients qui nous plaisent dans Star Trek, que ce soit les personnages, leurs relations, l'évolution de leurs relations, le côté vaisseau, le côté bataille, le côté SF, le côté exploration, le côté découverte. Franchement, tout ça est bien réuni. Et en plus, comme vous l'avez dit tous les deux, avec une superbe animation, de la musique... au top, j'écoute en boucle la bande originale de la saison 1 depuis maintenant l'année dernière au moins, et j'attends avec impatience que la saison 2 sorte sur Spotify, parce que ouais, c'est pareil, hein, c'est un sans faute, quoi. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on aura aussi les journaux de bord de Yasmine et de Roman Nigita qui nous rejoindront dans la partie spoiler, qu'on va rejoindre d'ailleurs tout de suite.
Red Alert.
Je vais pas vous mentir, ça me fait un bien fou de tous vous retrouver. J'aimerais tellement que nos divisions de Starfleet se croisent davantage. Waouh, Jankom, t'es trop stylé.
Mais ouais, Jankom prend des douches soniques maintenant. Tu devrais essayer de temps en temps. Oh, mais j'ai changé. Jankom le vaut bien. Et Jankom s'excuse. Cette vanne n'était pas gentille. Et Jankom travaille à ne vexer ses personnes.
Oh, c'est une grande marque de progrès. Étonnant de voir ça chez un Tellarite.
J'aimerais tellement que Gwen soit là.
Elle est certainement la reine de Solum à l'heure qu'il est. Je préférerais la voir plutôt que d'aller à cette fête d'étudiants.
Fête d'étudiants? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends pas compte de la chance qu'on a? L'amiral Janeway va nous prendre sous son aile sur un vrai vaisseau de Starfleet. C'est la chance de notre vie.
Et Jankom dit qu'un petit stage avec elle, ça fera très bien sur nos curriculums quand on passera devant le jury de l'académie.
Warning. Il s'appelle Sur la brèche. Donc première partie, et puis après il y aura bien sûr Sur la brèche, deuxième partie, écrit par les frères Engman et réalisé par Ben Ibbon. Et c'est des très bons épisodes, Donc on commence la saison avec on retrouve les personnages parce que alors qu'ils continuent donc leur formation afin d'intégrer l'académie de Starfleet, Dal, Rocktac, Zero, Jenkon Pog et Murph sont appelés à bord d'un nouveau vaisseau pour une mission sous le commandement de l'amiral Janeway et pas n'importe lequel de vaisseau. Et c'est j'ai tout de suite pensé à toi, Gira, parce que quand on avait fait le podcast sur la saison 1, tu nous disais que tu étais persuadé que dans la saison 2 on aurait un vaisseau Voyager et effectivement. Donc toute notre petite équipe va rejoindre l'équipage du Voyager A sous la direction de l'amiral Janeway. Et pas seule, elle ne sera pas toute seule d'ailleurs parce qu'elle sera aussi accompagnée par le docteur holographique qui sera toujours là aussi joué par Robert Picardo en version originale et pas du tout la même VF que dans Star Trek Voyager. C'est bien dommage parce que la VF de Star Trek Voyager était vraiment excellente pour ce personnage. C'est pas le cas pour tous les personnages, mais pour celui-ci, en tout cas, c'était très réussi. Le nouveau, c'est quelqu'un de connu, je vais chercher le nom tout à l'heure, qui fait plutôt bien le job, mais c'est vrai que comme on a la même voix VF de Janeway par rapport à Voyager, c'est dommage de ne pas avoir la même chose, non seulement sur le docteur holographique, mais peut-être sur d'autres personnages qu'on verra plus tard. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir l'USS Voyager A, Giraffe ?
Bah, alors déjà, vu le teaser de dernier épisode du final de la saison 1, en disant qu'ils avaient un nouveau vaisseau, j'étais là, le Voyager, c'est Voyager ! Donc, non, super, j'aime bien le petit clin d'œil à Lower Decks, comme quoi le vrai est un musée et l'original est un musée, mais que ça, c'est du coup un refit. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. C'est quoi ?
Refondu.
Un refondu.
Une mise à niveau, une mise à jour.
Ouais, c'est voilà.
C'est un classe Lamar, donc ce n'est pas un classe intrépide.
Voilà. D'ailleurs, la révérence à Heidi Lamar, j'ai trouvé ça très très bien, très très beau. Donc non, j'étais super contente de voir un nouveau. Je suis pas super dans les vaisseaux, etc. C'est pas vraiment mon truc. Je suis pas un ship bro, tu sais. j'aime les relationships, mais pas les ships. Donc, c'est cool. Je suis contente de voir Voyager, mais voilà, c'était pas non plus mon graal, on va dire.
Et toi, Cyril, toi qui es vraiment un ship bro?
Ah bah moi, quand j'ai vu le nouveau vaisseau avec le A, USS Voyager A, bah forcément, j'étais content. Sachant que c'était dans Star Trek Picard qu'on apprenait que l'USS Voyager servait aussi de vaisseau musée. Et le vaisseau est une bonne surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver tout ce qu'on a vu ces dernières années dans Star Trek, à savoir, là je peux spoiler, parce qu'on est en zone spoil, la station s'est tassée, enfin. On la voit bosser, on l'avait vu un peu dans Lower Deck, mais on n'avait pas vu les baleines. Donc ça rejoint le blueprint de l'USS Enterprise D qui avait une station cétacée et dont on n'avait jamais vu à quoi elle servait. Donc maintenant on le sait, ça sert à tracer des cartes, voilà, on le sait. Et le moteur est un moteur à sillage quantique, référence à un autre épisode d'USS Voyager. Très bon épisode de la saison je sais plus combien. Et normalement sur ce vaisseau-là, il y a aussi la technologie ramenée par Janeway du futur avec le bouclier.
Ah oui, ils en parlent, ouais.
Ouais, ils en parlent plus tard, ouais.
Mm-hmm. Non, mais très satisfait, moi. Si on doit parler que du vaisseau, on peut en parler une heure. Hein, donc,
je vois ça.
vas-y, je t'en prie.
Changez-moi de sujet.
J'ai pas de connaissances là-dessus. J'étais là. Ah oui, le sillage quantique, évidemment.
c'est référence à un très bon épisode de Voyager où on s'aperçoit qu'on suivait peut-être pas le bon équipage.
Ah oui, celui avec les gars qui étaient faits de boue de la planète. La planète
oui,
démon
voilà,
M ou je sais pas
démon.
Quoi là. Ouais, la planète démon,
ouais, exactement.
Voilà.
Et toi, Guigui, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah moi, j'ai adoré. Alors, je trouve quand même que le Voyager original est plus joli, mais celui-ci est quand même pas mal. Et surtout, j'ai bien aimé le fait qu'on retrouve les personnages dans un rôle un peu à la Lower Decks, c'est-à-dire qu'ils soient un peu au bas de l'échelle. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont il est mis en scène, c'est-à-dire la façon dont c'est teasé. Au début, dans le premier épisode, donc on a l'équipage, on retrouve chacun des personnages dans leur nouveau milieu, donc au sein de l'académie, chacun dans leur matière principale, enfin les matières pour lesquelles ils sont les meilleurs, et on vient les chercher, et puis petit à petit ils se regroupent, etc. Ensuite, il y a une navette qui arrive avec le docteur holographique qui est fidèle à lui-même et qui leur explique des trucs, que c'est bon, ils vont embarquer avec lui. Et c'est seulement après qu'ils vont sur le Voyager Et là, je trouve que vraiment la mise en scène, bon, alors, bien sûr, comme d'habitude, ça fait penser au film The Motion Picture, quand Kirk redécouvre l'Enterprise. Donc, on a un petit peu ce petit clin d'œil qui est là. Et bah, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup les uniformes. Voilà, d'un point de vue design, je trouve que tout est très, très réussi. Et pour revenir sur donc, l'acteur VF, qui a doublé Robert Picardo dans Star Trek Voyager, il s'agissait de Philippe Catoire, qui n'est pas décédé, mais qui, on imagine, qui est à la retraite, parce qu'il est un petit peu âgé maintenant. Et par contre, j'arrive pas à retrouver le nom de l'acteur français qui le double actuellement. Figurez-vous que c'est un des acteurs qu'on voit au tout début du Dîner de cons, le film avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Je sais pas si vous voyez, c'est le gars qui, justement, recrute un peu les cons pour le dîner. Et j'essaie de trouver le nom de cet acteur qu'on voit toujours un peu partout, qu'on le voit doubler, bah, par exemple, qui double Richard Dean Anderson dans toutes ses séries, hein, que ce soit Stargate ou MacGyver, par exemple. Et du coup, je devrais chercher sur la page Wikipédia de MacGyver, peut-être que je trouverai le nom du gars.
Bah, pendant que tu cherches, une des premières interactions du docteur avec nos jeunes amis, c'est une blague, référence à McCoy.
Mm-hmm, tu es un docteur, pas un bagagiste. Hein.
Exactement. Et il fera souvent le running gag.
Il le faisait déjà beaucoup dans Voyager, hein, d'ailleurs,
oui.
Ce running gag.
On l'a eu d'ailleurs aussi dans Discovery avec Calbert qui dit « Je suis un docteur, pas un physiciste, un physicien, je suppose.
» Alors, en fait, l'acteur, ça serait, qui double le docteur maintenant, ça serait Edgar Givry.
Je vois qu'on a fait du travail de préparation pour ce podcast. Moi, je dois dire que c'est un jour férié aujourd'hui, donc je viens aussi de me lever. je suis
au café. C'est bien Edgar Givry, c'est bien lui, ouais.
Je vois qui c'est.
Donc, très bon acteur, mais c'est vrai que, voilà, petit pincement au cœur de ne pas retrouver l'original, on va dire. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? On va apprendre... Bah, déjà, ce qui est bien, c'est, comme je disais, c'est que les personnages vont se retrouver un peu comme des Lower Decks, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas au centre de l'action... Et ils vont devoir un peu forcer les choses pour l'être, parce que finalement, ils vont se rendre compte que leur mission, ça va être de retrouver de chaque côté, avec la fameuse wormhole, le fameux vortex temporel qui s'est ouvert et qui donnerait donc, qui mènerait jusqu'à à l'époque où se retrouve chaque côté, donc à peu près 50 ans dans le futur. Il y a un débat avec Janeway et ses.
L'amiral Jellico.
L'amiral Jellico, et puis même avec les personnes avec qu'elle travaille, avec son numéro 1 andorien, qui est vachement bien, j'ai oublié son nom par contre.
Thaïsis.
Ils se demandent s'ils doivent... Voilà, c'est ça, merci. Ils se demandent s'ils doivent y aller ou pas, et puis Dahl, forcément, comme il est d'habitude, il va fureter un peu partout, et puis il va vouloir justement enquêter, savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Parce qu'en fait, il découvre qu'il y a un hangar qui est sur... un hangar secret, entre guillemets, et là-dedans, donc ils vont voler une navette. Et ils vont surtout se faire accompagner, malgré eux, par un nouveau personnage, une Vulcaine, qui est vachement bien.
Magel,
merci. Donc super, super, super clin d'œil, donc, bien sûr, à Magel Roddenberry. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage? Est-ce que quand vous l'avez vu la première fois dans le premier épisode, parce qu'elle apparaît comme ça, on pourrait se dire que c'est une figurante, comme il y en a plein, est-ce que vous pensiez que c'est un personnage qui allait prendre autant d'importance?
Oui, parce que juste le design du personnage est tellement recherché, parfait. Tu vois, c'est vraiment un personnage tout de suite, elle te tape dans l'œil, rien que pour le fait qu'on a enfin des Vulcains qui n'aient pas la même coupe de cheveux.
ouais, c'est vrai.
Donc, directement, les interactions avec les autres personnages et que Dahl fasse une réflexion sur ses cheveux, je dirais, bon, c'est bon. On a trop de... Trop de, comment, de sympathie directement et d'intérêt pour ce personnage pour qu'il revienne pas, en fait.
Puis elle fait partie de l'escadron Nova.
Et puis son nom, c'est Magel, déjà... tu vois.
Et voilà. C'était destiné. Enfin, on comprend très vite qu'elle va jouer un rôle important, ne serait-ce qu'elle est surveillée. C'est un petit peu le pendant de Gwen pendant un petit moment.
Ouais, c'est vrai, tu veux dire que le personnage qui est un peu sérieux, qui essaye de tempérer un peu les ardeurs adolescentes des autres personnages. Quoique, il y a Rocktac aussi, qui est un peu aussi sur cette ligne-là, qui essaye un peu de, comment dire, de raisonner les autres en disant « Arrêtez les gars, maintenant c'est sérieux, il faut arrêter de faire les conneries. »
Les gens qui ont lu le manuel, en fait.
Oui, voilà.
C'est ça. C'est, Roy Rocktac, c'est un peu une sorte de Boimler, pour le coup.
Qui ça, Magel, hein, ou Rocktac?
Rocktac.
Ouais, je dirais, mais elle a moins les doutes de Boimler, parce que Boimler, il doute vachement.
Ah, c'est sûr.
Ouais. Donc, Boimler saison 4, on va dire.
Ouais, je suis assez d'accord. Donc par rapport à ça, en parallèle, donc il y a Gwendala qui est dans la partie 2, donc de le deuxième épisode sur la brèche, qui est rejoint son monde, qui doit jouer un peu un rôle d'ambassadrice, mais elle va avoir forcément une mauvaise surprise avec l'antagoniste qui est aussi issu de son peuple, qui visiblement a pris les devants et qui s'appelle je sais plus comment.
Moi, j'ai oublié aussi le nom, je t'avoue.
Ascensia.
Merci, Ascensia. Tu vois, on voit la différence quand je prépare les trucs ou quand je les prépare pas, tu vois.
Marre de rire. Donc, ouais, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que déjà, l'actrice qui fait la voix de Ascensia, voilà, maintenant, c'est moi qui oublie les noms, c'est Jamila, comment elle s'appelle ? Je l'ai, parce que je l'ai sur le bout de la dent. Jamila Jamil. Ça, c'était. Qui, si vous avez vu The Good Place, qui joue dans The Good Place, voilà. Et donc, qui est aussi une Trekkie, donc qui était super contente de faire partie du cast de Prodigy. On oublie souvent qu'en fait, elle fait partie de ce cast, comme David Diggs, qui fait le lieutenant Tysis, qui est très connu de Hamilton. Je ne sais pas si Hamilton est venu jusqu'en France, mais voilà.
Non, pas trop,
mais enfin bon, il est super connu ici. Donc, moi, c'est surtout pour ces personnages-là aussi que je veux voir la version originale. Hein. Donc, je suis contente de voir que Ascensia a eu un rôle important dans ce second épisode. Et aussi, encore une fois, Starfleet qui prévoit pas les trucs, en fait. Tu vois, qui va un peu... Je vais pas le dire parce que je sais plus si vous êtes PG ou pas, mais tu vois.
Au petit bonheur la chance
avec son et son couteau, tu vois, un peu genre tada, bonjour, c'est nous, tadada. Ils envoient Gwendala avec seulement une personne et voilà, et bon courage. Donc évidemment ça tourne mal.
C'est la merde.
C'est le manque de préparation pour moi. Tu vois, il n'y a pas de stratégie du tout, quoi. C'est bien sûr, ça va bien se passer. Donc voilà, et bien sûr, ça se passe pas bien.
C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que Starfleet sait, par rapport aux événements de la saison 1, l'enjeu qui est d'avoir ce premier contact réussi. Donc c'est vrai que c'est étrange qu'il ait développé si peu de moyens autour de ça, quoi. C'est vrai que c'est un peu étrange. Mais il y a un autre truc aussi qui m'a un peu surpris dans cet épisode, que je trouvais un peu facile, c'est justement le fait que la navette, au début, Dahl et compagnie, et Majel et Jacob et Zéro, Zéro il est avec, je me souviens plus, ouais je crois qu'il est avec, ouais Zéro est avec, ils n'avaient pas prévu d'aller dans le vortex temporel, quoi. C'est un peu un accident parce qu'à un moment donné, il y a Majel et Dahl qui vont se disputer et ils ne vont pas appuyer sur le bon bouton dans la bagarre, quoi. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux quand même, un petit peu abusé.
Moi, c'est les ceintures de sécurité. Enfin, il y a des ceintures de sécurité sur les vaisseaux.
J'espère que dans ta vidéo, du coup, tu as fait la référence à... dans Beyond, où ils ont les ceintures de sécurité.
Ceintures de sécurité, ouais.
Et dans Nemesis aussi.
C'est vrai. Mais elle ressemblait plus à celle de Beyond, non ? Ça me fait penser à Beyond.
Ah oui. Non, mais surtout que c'est la blague, en fait, de Nemesis, elle était marrante parce que tu avais Archer dans Enterprise qui disait « Ah, ça serait bien d'avoir des ceintures », et puis en fait, genre 200 ans plus tard, c'est bon, la requête est acceptée, l'administration de la Fédération, ça met 200 ans à arriver.
Ouais, tu sais que Starfleet n'a pas de OSHA, tu sais, le OSHA, c'est l'organisation aux États-Unis qui fait la sécurité au travail.
voilà. C'est pour ça.
Donc à chaque fois, les gens ils vont dire non, mais Starfleet has no OSHA, there's no OSHA in Starfleet. C'est juste bon courage, quoi.
Ouais, je comprends tout à fait.
Si ça avait été en France, on aurait les ceintures de sécurité, les alcotestes, tout à...
Les rambardes.
À portée de main. Les rambardes, voilà. Non, mais dis donc. Sécurité au travail.
Captain, incoming message.
Journal de bord de l'ingénieur en chef Yasmine. J'ai vu les épisodes de la deuxième saison de Prodigy dans la précipitation. Un jour, je vais tranquille sur le Discord du cadran pop et je vois que Maxime a posté une capture d'écran se demandant pourquoi il voit la saison 2 de Prodigy sur France TV. Je vérifie de mon côté et je vois qu'on a bien une saison entière non annoncée en version française sur une chaîne française en accès libre. Bien sûr, je suis persuadée que c'est une erreur monumentale et dans la panique, je me mets à regarder vite avant que ça ne disparaisse. Tout en cherchant un moyen d'enregistrer les épisodes, tout ça, bon. Autant dire que je me souviens à peine des deux premiers épisodes que j'ai donc dû revoir pour les besoins de la capsule. La VF, perturbante, surtout la voix de Rocktac et le techno-blabla incompréhensible pour moi en français. Perturbante surtout au début, parce que assez vite adopté finalement. Puis j'aime beaucoup la voix française de Janeway. Contente aussi de revoir le docteur, même sans la voix de Picardo, et de réécouter la musique du générique. En place assez vite les éléments de contexte et des choses qui collent au canon, l'évacuation de Romulus, l'escadron Nova, la mécanique temporale 101, traduite malencontreusement en son 1 en français. Nos bébés sont éparpillés à l'académie et se retrouvent à la 5ème minute, tout le monde sauf Gwendala, qui s'appelle Gwen en français. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'elle s'appelle Gwyn, mais ça c'est moi. Dal commence la saison en étant chiant, il semble qu'ils doivent refaire le même chemin qu'en saison 1. Les autres ont changé et on prend le temps d'établir où ils en sont. Gencom fait des efforts pour pas heurter les autres. Roktak est épanoui à l'académie et veut respecter les règles comme il faut. Zero se pose des questions sur sa non-corporalité et le fait de pas avoir des sensations notamment tactiles. Et puis Murph est plus grand. Ils embarquent sur le nouveau voyageur de classe Lamar, qui est super classe. Très vite, les petits font un porte-nawak et veulent découvrir la mission secrète de Janeway. Heureusement que Roktak est la voix de la raison, mais personne ne l'écoute. Alors, je trouve que ce qu'on a vu en 20 minutes du premier épisode ne justifie pas qu'ils aillent chercher les ennuis aussi vite. On aurait pu peut-être avoir des espoirs de Starfleet plus malheureux ou désabusés ou qui veulent absolument se prouver parce qu'ils n'y arrivent pas par la voie de la méritocratie. Ils sont en retard vu leur vie antérieure ou ont besoin de montrer ce dont ils sont capables. Mais en fait, du coup, ils se retrouvent à chercher l'occasion de se prouver en enfreignant les règles éventuellement. Bon, on n'a pas ça en fait. On n'a pas trop de justification à part que Dal s'emmerde et qu'il fait le con parce qu'il n'est pas content alors que tout le monde est à l'aise. Mais lui se sent seul et inutile, etc. Côté Gwendala, c'est le stress parce qu'elle s'occupe toute seule du protocole de premier contact avec son peuple, alors que c'est quand même une ado. Elle découvre qu'Asensia était déjà là, qu'elle a tout bousillé, et les Vonaka tirent sur le vaisseau de Starfleet, pourchassent Gwendala, ce qui l'amène à rencontrer la version antérieure de son père, et avoir l'idée, merveilleuse, d'un combat rituel à la mort classique pour sauver son peuple. Côté Dal, qui fait encore des conneries, on a quand même quelques facilités d'écriture, du style la Vulcaine de l'escadron Nova les entend parler dans le couloir. Et c'est ça qui précipite en fait les événements. Puis c'est un accident qui fait décoller le vaisseau en pilotage automatique, vaisseau qui n'a vraisemblablement aucun verrouillage et qui est programmé pour aller directement dans le trou de verre. Bon, au total, deux épisodes cool, hein. Les éléments sont bien placés en début de saison, ça va vite, à la fois du côté des recrues que du côté de Gwen, mais quelques facilités d'écriture quand même, qui rendent la série un peu goofy et un peu enfantine, que moi je trouve acceptable en fait pour une série d'animation pour les enfants. J'ai bien aimé dans l'ensemble et j'ai hâte de revoir le reste. Yasmine, out.
Engineering, this is the bridge.
Bonjour, ceci est le journal de bord de l'officier Romain Nigita. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui car je suis en mission à Monte Carlo. Alors non, je ne fuis pas du tout la France à cause de l'actualité politique, c'est juste que j'y suis pour le festival de télévision de Monte Carlo qui s'y tient tous les ans depuis 60 ans avec des interviews au programme, avec des vedettes de séries. Bref, vous pourrez lire tout ça dans mes pages dans Téléstar, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Star Trek Prodigy, cette saison 2 que moi j'ai beaucoup aimé, j'avais déjà beaucoup aimé la saison 1 et je trouve que cette saison 2 est très réussie même si j'ai quelques petites réserves, notamment le fait que c'est quand même une saison extrêmement feuilletonnante du début à la fin alors que j'avais beaucoup aimé les épisodes bouclés qu'on avait dans la saison 1, mais voilà, ils ont pris ce parti de faire une saison quasi intégralement feuilletonnante. Mais notre commandeur Guigui m'a surtout demandé de vous parler des deux premiers épisodes de cette saison 2, donc les épisodes sur la brèche partie 1 et sur la brèche partie 2, qui forme une seule et grande histoire, qui est un peu le prologue à toute cette saison. J'ai trouvé ces deux premiers épisodes assez réussis, déjà parce que on est évidemment extrêmement content de retrouver tous les personnages de cette série, personnages que j'avais vraiment beaucoup aimés, qui sont très bien définis et toujours aussi sympathiques. On les retrouve évidemment là où on les avait laissés à la fin de la saison 1, à l'académie de Starfleet. Ils sont tous séparés, mais ils vont tous être réunis très vite. Donc finalement, on voit pas grand-chose de leur passage à l'académie, hormis le fait qu'ils sont tous quand même très bons, chacun dans leur spécialité, et que les autres élèves de l'académie sont assez jaloux, puisqu'on va les retrouver finalement très très vite réunis à bord d'un nouveau vaisseau, le nouveau Voyager. Alors ça, c'est évidemment le gros événement de cette saison. Un nouveau vaisseau Voyager, évidemment, après le vaisseau original qu'on connaissait dans la série des années 90. Le nouveau design est quand même très inspiré de l'Enterprise E, vaisseau que moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça colle un peu moins bien au Voyager. Je trouve que le Voyager original a vraiment un look très distinctif, et là malheureusement je trouve ce nouveau Voyager un peu plus banal. Ouais, je trouve ça un peu dommage, on retrouve plus vraiment les lignes si caractéristiques du Voyager. En tout cas, on peut voir que la séquence dans laquelle les Road Prodigy découvrent ce vaisseau est évidemment extrêmement inspirée de la célèbre séquence du premier film Star Trek The Motion Picture, dans laquelle Kirk découvre découvre très longuement l'Enterprise modifiée. Voilà, là c'est clairement un joli clin d'œil à cette séquence-là, qui est une séquence culte évidemment dans Star Trek, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une séquence pareille. Ensuite, on a évidemment le docteur holographique de Voyager qui fait faire la visite à nos petits héros de ce nouveau vaisseau. Le docteur qui joue un petit peu finalement le rôle de la Geno holographique de la saison 1. C'est un peu lui qui va prendre la place comme guide des personnages. C'est évidemment toujours formidable de retrouver ce personnage qui est l'un des plus marquants de Voyager. Et puis évidemment, on a Janeway sur la passerelle. Cette fois-ci, la vraie Janeway, même si on l'avait un petit peu aperçue dans la saison 1, là, c'est clairement la vraie qu'on aura dans toute cette saison 2. Et voilà, c'est quand même pas banal de retrouver une des héroïnes principales d'une des séries précédentes, à nouveau aux premières loges d'une des nouvelles séries. C'est quand même ce que permet cette nouvelle ère de Star Trek, et ça colle assez bien. Et puis, ce premier épisode sur la brèche partie 1 se termine par la découverte, évidemment, d'une navette secrète par nos héros. Et puis, là aussi, petit clin d'œil au début de la série, la saison 1. Dans la saison 1, ils découvrent le Protostar, et là, ils découvrent à nouveau un vaisseau caché. Voilà, c'est une petite navette expérimentale, mais on a à nouveau ce petit jeu. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est de constater que notre bande de héros, finalement, à bord de ce nouveau Voyager, c'est un peu des Lower Decks, finalement. C'est les personnages au bas de la hiérarchie, auxquels personne ne fait attention, ou alors quand on leur prête attention, c'est parce qu'ils sont un peu au milieu et qu'ils sont un peu gênants. Donc finalement, ils prennent leurs propres initiatives pour découvrir tout ce qui se passe dans les coulisses, donc c'est rigolo de voir finalement que les deux séries animées de la période actuelle de Star Trek jouent un petit peu sur les mêmes ressorts. Donc petit clin d'œil là aussi sympathique. Le deuxième épisode, sur la brèche partie 2, donc, on retrouve Gwen sur sa planète qui essaie qui sert un peu de diplomate, d'ambassadrice de la Fédération. Je dois avouer que toute cette partie-là, dans cet épisode et dans le reste de la saison, c'est pas ce qui m'a le plus passionné, même si évidemment le sort de Gwen va être très important pour le reste de la saison, mais tout ce qui se passe avec sa planète d'origine, avec son père et tout ça, je trouve ça assez confus, pas très intéressant. Bref, en tout cas, face à ce qui va être l'intrigue principale de la saison, c'est-à-dire sauver de chaque côté, comme on le découvre dans cet épisode 2, c'est un peu une intrigue clairement B. Donc en effet, c'est dans cet épisode qu'on comprend que la grande mission va être de sauver de chaque côté. Tout cela va évidemment conduire à des paradoxes temporels, donc on a une séquence où on essaie d'expliquer au jeune public de Prodigy toute la mécanique temporelle. C'est pas forcément très clair, mais il faut en passer par là. Gros point important de ce deuxième épisode, c'est l'introduction d'un nouveau personnage, une jeune recrue vulcaine, dont on sent que pour l'instant elle regarde un peu nos héros un petit peu de haut. Ça va évoluer au fur et à mesure de la saison, mais c'est un personnage intéressant. Et là aussi, on se retrouve un peu dans la situation de Lower Decks, puisque quand Lower Decks a introduit un nouveau perso qui va se joindre à la bande, là aussi c'est une vulcaine. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être toujours un peu le fait de se dire il faut un personnage un petit peu plus rigide qui va observer nos héros un peu foufou, mais ils en sont finalement passés par le même type de personnage, et dans les deux cas ça fonctionne assez bien. Et puis autre point, décidément un petit peu point commun avec Lower Decks, dans Lower Decks, comme vous le savez, sur le Cerritos, il y a des pilotes qui sont des dauphins, et on découvre que dans le nouveau Voyager, il y a des pilotes qui sont carrément des baleines. c'est Jonkom Pog est lui aussi très surpris, mais on découvre des baleines au sein de ce vaisseau, et aussi incongru que ça puisse paraître, ça fonctionne finalement assez bien. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que dans une série animée. Je pense que ça serait très compliqué à faire dans une série live, et je pense qu'on n'y croirait pas trop dans une série live, mais là, dans un contexte animé, ça fonctionne très bien. Et puis sans trop en dire, on va voir que dans la suite de la saison on va les revoir, ces baleines, dans des situations assez amusantes. Donc finalement, ces deux premiers épisodes posent assez bien les bases de cette saison. Il y a encore beaucoup de surprises à attendre par la suite, je vous en dis pas trop, mais il y a surtout un personnage de la saga Star Trek qui revient et qui aura un rôle extrêmement important. Ce sera pas juste un clin d'œil ou un caméo. C'est pas dans ces deux premiers épisodes, c'est un petit peu plus tard. Moi, j'étais ravi de retrouver ce personnage. Pour l'instant, le secret quand même était assez bien gardé depuis la diffusion française sur Oko. Le meilleur est à venir. Ces deux premiers épisodes, ça n'est qu'un prologue, mais en tout cas, ça lance tout ça sur de très bonnes bases. Et je vous rends les communications, cher commandeur Guigui. À bientôt.
Et sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a Gwendalak qui rencontre son père, une version jeune de son père. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène ?
Elle était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le comment elle rencontre le prof, enfin celui qui était le devin dans la saison 1. Et on s'aperçoit que c'est un homme calme, gentil, doux. Tout ce qu'il n'était pas dans la première saison, quoi. Et j'ai trouvé assez attendrissant comment elle se présente à lui avec le symbole de la famille, avec ce liquide, là, ce métal liquide là, qu'elle a,
qui lui permet
de refaire. Là.
Ouais.
Ouais.
En anglais, ça s'appelle the heirloom, mais je sais pas.
Voilà.
L'héritage, en fait, français, ouais, un truc comme ça.
L'héritage, ouais, c'est exactement ça, c'est l'héritage en français. Non, super scène. J'avais un peu peur que ça soit cucu la praline, et non, en fait, ça passe crème.
Et en plus, ça permet de justifier le revirement en fin de saison 1, justement, du gars, en se disant, finalement, au fond de lui, il n'était pas si vilain que ça, et c'est normal que il ait ses dernières bonnes actions avant de mourir, dans le dernier épisode de la saison 1.
Ouais, après, moi, je suis pas le personnage du devin. Tu sais, dans la version américaine, c'est joué par John Noble, que vous connaissez de Fringe, qui est le professeur, le scientifique dans Fringe. Donc aussi super acteur. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir ce casting pareil, mais bon. Mais je trouve que j'ai un peu du mal avec ces personnages de parents hyper toxiques. Enfin, je veux dire, il a essayé de tuer sa fille combien de fois dans la saison 1, sérieusement. Et le fait que toujours on a le personnage des enfants qui va « Ah, mais en fait, il est pas si méchant. Mais en fait, il a bon fond. Mais en fait, c'est bon, non. » Non, on s'en fout qu'il a bon fond. C'est quand même quelqu'un d'absolument horrible, quoi. Et je trouve que Gwendala, elle passe... dans la saison 1, on voit que ça l'a beaucoup traumatisée et qu'elle a beaucoup à réfléchir là-dessus et qu'elle a beaucoup à se recentrer sur l'équipage du Protostar et ça fait tout complètement sens. Et j'ai l'impression que dans cette première saison, tout est oublié, tu vois, alors que, c'est pas vraiment comme ça que les gens opèrent, quoi. Donc,
Ouais, mais là, c'est pas vraiment la même personne, parce que c'est quelqu'un qui est plus jeune de plusieurs décennies.
Surtout quand t'as été maltraité, abusé par quelqu'un, il a beau être 20 ans plus jeune, c'est quand même cette personne-là, quoi. Je veux dire.
Tu veux dire quoi, que Gwendala, elle aurait pas dû avoir cette façon d'interagir avec lui?
Je trouve que, encore une fois, c'est vraiment Star Trek.
Elle devrait être traumatisée, elle devrait.
Ouais, tout le monde oublie ses traumatismes. Allez, c'est reparti, on est tous. C'est l'épisode d'après, donc tu vois, on n'est plus blessé, on n'a plus peur, on n'est plus en deuil, on ne se souvient pas que cette personne vous a abusé et maltraité pendant 20 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, Gwen, mais voilà. Donc c'est toujours un peu ok, je veux bien qu'on passe de l'avant, mais enfin, moi personnellement, en tant que personne qui avait un père vraiment pas génial, hein, tu vois, je peux te dire que même si je le revoyais 20 ans plus jeune, 30 ans plus jeune, 40 ans plus jeune, c'est quand même une personne qui m'a maltraité pendant des années, tu vois. Et pour moi, ça me marque toujours parce que malheureusement, il y a quand même encore de nos jours beaucoup d'enfants qui ont des parents qui les traitent pas très très bien, n'est-ce pas? Et je trouve que Star Trek a toujours cette attitude où les enfants finissent de pardonner à leurs parents sans arrêt, quoi. Regarde dans Lower Deck avec, comment elle s'appelle Mariner, sa mère l'envoie quand même au casse-pipe, quoi, sur la station 80. Et elle revient et ça y est, elles sont super potes. Enfin, excuse-moi, quoi, un jour, quoi. Donc bon, je sais bien, tout est bien qui finit bien, mais ouais, je trouve que... moi, ça m'a toujours choqué, même en tant qu'enfant, ces retournements-là où on m'expliquait encore et encore et encore qu'il fallait que je pardonne. J'étais celle qui devait pardonner, celle qui devait avancer, celle qui devait oublier et... Je trouve que on peut un peu mieux faire, hein, sur ça par rapport aux enfants, quoi.
C'est vrai que par exemple le personnage du devin, ils auraient aussi bien pu s'en passer en fait dans cette saison 2. C'est juste que en fait il va servir de d'allié, d'appui un peu plus tard dans la saison pour certaines choses, pour des intrigues un peu annexes. Mais c'est vrai qu'il aurait.
Ouais, je trouve qu'Ascensia est un personnage qui est plus intéressant dans cette saison 2, honnêtement.
Ah oui, complètement. Alors là, c'est sûr. Ah ouais, elle est géniale. Moi, franchement, j'avais beaucoup aimé dans la saison 1 parce que j'avais pas vu venir le retournement, le twist la concernant, que c'était encore quelqu'un infiltré dans Starfleet. Mais j'avais vraiment bien accroché à ce personnage-là. Et là, la saison 2, ouais, ça a confirmé, c'est vraiment une excellente antagoniste. Et d'ailleurs, justement, toi qui fais du cosplay, Giraffe, qu'est-ce que t'as pensé des tenues des Vonakat, des espèces de gardiens comme ça?
Déjà, Aaron Walkey a arrêté de me dire sans arrêt « Tu verras ces ordi, il y a des trucs que tu vas vouloir faire, il y a des trucs que tu vas vouloir faire. » Et j'étais là « Ok. » Parce que j'ai toujours trouvé que l'esthétisme d'Eva Onakat était super intéressant. Et je peux te dire qu'en regardant la saison 2, j'ai pas arrêté de prendre des photos des anciens, là. Je trouve que le design des deux anciens, là, c'est juste magnifique, quoi. C'est impossible à faire, mais on va essayer quand même.
Et je trouve que tu nous enverras les photos quand ça sera fait.
Ouais, bah bien sûr, ce sera, tu sais, sur mon Instagram comme d'habitude. Mais surtout, je trouve que Prodigy réussit à vraiment créer des esthétismes qu'on n'a pas vus dans Star Trek encore. Tu vois, quand je vois les séries live action, tu retombes un peu tout le temps sur les mêmes trucs.
Complètement.
Je veux dire,
surtout sur les vieilles séries.
Bon, Strange New World, honnêtement, on n'a pas beaucoup vu de Strange New World dans la saison 2. Hein.
C'est vrai.
Les autres séries nous ont donné plus de Strange New World que Strange New World. Donc voilà, je trouve que même si les uniformes dans Discovery étaient très très beaux, ce sont des uniformes, quoi. Et quand moi, c'est pas vraiment mon truc de porter des uniformes que je peux acheter sur eBay, tu vois, c'est pas mon type de cosplay, quoi. Donc je suis toujours en train de chercher ce personnage à refaire, ce personnage un peu différent, ce design un peu différent. Et je trouve que dans cette saison 2 de Prodigy, il y a quand même 2-3 designs de costumes qui sont super beaux, quoi. La saison 1, on avait les Enterprisiens avec leur tenue verte que j'avais trouvé aussi vachement intéressante. Et là, les anciens, tout ce qui est Solum, c'est vraiment très très beau. Et puis bon, je vais pas spoiler, mais il y a d'autres occurrences dans les épisodes suivants où, encore une fois, il y a des choix.
S'il y a des fans de pullover en laine.
Oui.
Ils seront comblés.
Voilà, mais même sur les designs d'aliens que, honnêtement, moi, on n'a pas vu dans Star Trek depuis, je dirais, l'épisode 1 de Discovery avec, tu sais, les personnes papillons, là.
Je pensais de souvenir, la saison 4.
Ouais, donc... Après, bon, bien sûr, Lower Decks nous apporte aussi des personnages super intéressants, mais pas tant d'aliens que ça, en fait. Donc, voilà. Je trouve ça bien que Prodigy continue cette tradition de nous donner des aliens intéressants.
Non, mais c'est vrai que Prodigy, comme je le disais, c'est sûrement peut-être la série Star Trek récente qui est plus dans l'exploration. Parce que, ouais, comme tu le dis, en termes de costumes, mais aussi de décors, de planètes, de personnages, c'est là où il y a le plus d'inventivité pour l'instant, quoi.
Et je trouve que pour une série qui est à la base pour un public adolescent, on va dire jeune adolescent, il prend son sujet au sérieux. C'est-à-dire qu'à aucun moment il prend les enfants pour des abrutis. C'est pas une série bête et méchante, genre Pas de Patrouille. Non, mais il faut dire...
Pas de Patrouille, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Paw Patrol.
Paw Patrol. J'étais la Pat
c'est
Patrouille.
Une... Ils ont changé le W en T et voilà.
Voilà.
Ça marche.
C'est vraiment une série qui est là pour apprendre des choses aux enfants, notamment quand ils parlent souvent de la mécanique temporelle. Et j'ai trouvé que ça prenait pas les gamins pour des cons, et c'est peut-être aussi pour ça que la série, du moins la saison 2, je l'ai trouvée plus intéressante. C'est-à-dire qu'elle a un propos plus mature et elle prend pas son auditoire pour un con. Voilà, je vais me répéter, mais...
J'écoute ton podcast avec Arkady et c'est vrai que vous parliez souvent de Prodigy en disant que vous aimiez pas trop parce que c'était pas trop Star Trek, en tout cas au début. Mais là, dans la saison 2, on est clairement dedans, quoi. On est dans le dur.
Ah oui, oui.
C'est peut-être pour ça aussi que t'apprécies plus cette saison 2 que la première, non ?
Ah mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un équipage, c'est limite un film. Tu vois, le découpage, tout est fait de façon à ce que t'as l'impression de voir un film de... Un très long film, on va dire. Mais il y a tous les rebondissements d'un bon film Star Trek, quoi.
Alors, même, j'irais même plus que ça, c'est que même en termes de mise en scène, les cadrages, le montage, la façon dont la réalisation se déroule, c'est effectivement très cinématographique et très qualitatif.
Oui, je sais pas qui fait leur storyboard, mais effectivement, c'est très très bien fait, oui.
Ah, c'est moi, franchement, c'est un des trucs qui me bluffe le plus. Parce que étant auteur de BD, forcément le cadrage c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et là, je peux dire que dans Prodigy, je suis vraiment servi, quoi. Là, c'est souvent en plus, ils arrivent très bien à utiliser la lumière en plus de manière très pertinente pour faire des choses vraiment très jolies. Voilà, les gens qui font ça se voit que c'est des gens qui sont passionnés et qui prennent leur temps pour faire les choses correctement. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en règle générale pour une série de, entre guillemets, pour enfants, quoi.
Après, ça a été aussi la malédiction de Prodigy, hein. C'est-à-dire que Prodigy n'est pas regardé par les enfants. aux États-Unis en tout cas. La série Star Trek qui a le plus de parts d'enfants et d'adolescents, c'est Lower Decks. Et Prodigy, en fait, c'est les enfants de Trekkies qui le regardent parce que leurs parents le regardent, en fait. Ça a été un peu la malédiction de Lower Decks, dans l'idée où, tu sais, c'est pas considéré comme assez accessible pour le grand public des enfants non Trekkies.
Moi, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote pour là-dessus, et j'en ai parlé à Aaron, le producteur de la série, justement, qu'on espère avoir en interview, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir l'aval de la Paramount pour ça, et bon, ça se passe pas forcément toujours bien.
C'est un de nos patrons, c'est un de nos mécènes, si tu veux.
Ouais, non, mais il est super, mais il est OK pour faire une interview, mais voilà, il faut que ce soit validé officiellement par le studio avant ça. Et donc, bref, je lui parlais pour lui dire à quel point j'avais adoré la saison 2, et je lui ai raconté cette anecdote, c'est-à-dire que l'anniversaire de mon fils, forcément, c'était au mois de mars, on regardait Prodigy tous les jours, on regardait un épisode, et la télévision restait allumée, et en fait, c'était l'anniversaire donc, de mon fils, et il y avait ses copains qui arrivaient pour l'anniversaire. Et figure-toi qu'il y a des jeunes qui ont reconnu immédiatement l'image qui était figée sur la télévision, en disant « c'est Star Trek Prodigy ». Ils n'ont pas dit Prodigy, ils ont dit « c'est Star Trek Prodigy ». Et là, je me suis dit « waouh ». Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Trekkies là où j'habite. Je poserai la question aux parents des copains de mon fils, mais je pense que, tu vois, le fait qu'en France, ce soit diffusé sur France Télévisions, donc sur un canal qui est gratuit, et que ce soit diffusé en linéaire à raison d'un épisode par jour. Ce qui fait qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que pendant la saison 1 aussi, on a eu des épisodes en avance sur les Américains, mais c'était seulement quelques jours sur quelques épisodes. Et ça n'a pas fait grand bruit parce que personne ne s'en était rendu compte. Et donc, ouais, je pense quand même que ça a touché un public jeune qui n'est pas forcément avec des parents Trekkies. Et c'est en ça que je trouve que la série, elle marche, quoi. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est que maintenant, mon fils, il veut regarder tous les soirs, il me supplie de regarder un deuxième épisode de Star Trek Voyager après avoir vu le premier. Et il fait déjà des plans pour regarder La Nouvelle Génération et forcément après Deep Space Nine. Donc là-dessus, ça a marché.
Je veux pas te décevoir, mais les parts de marché de la France, c'est pas non plus.
Ah oui, mais ça je sais. Ça, je sais bien,
et aussi, moi je suis dans l'éducation aux États-Unis et c'est vraiment intéressant de voir autant en France les enfants regardent ce qu'on regarde. Enfin, pas tout, mais tu vois ce que je veux dire. Très souvent, on regarde la télé avec les enfants, mais aussi les enfants mangent ce qu'on mange. Il n'y a pas la séparation complète des enfants et des adultes en France. Moi, j'ai toujours vécu avec mes parents, j'ai toujours mangé avec mes parents, etc. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, t'as quand même beaucoup la culture que les enfants, ils consomment des choses pour les enfants. Les enfants, ils mangent de la nourriture pour les enfants. La plupart des familles américaines, les enfants ne mangent pas la même chose que leurs parents, ne regardent pas la même chose que leurs parents. Et les parents ne regardent pas avec leur faim.
Est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur « ils ne mangent pas la même chose que leurs parents », c'est-à-dire je comprends pas, en fait.
En fait, y a de la nourriture qui est dite la nourriture pour enfants. Et du coup, les enfants mangent de la nourriture pour enfants.
Mais
donc,
c'est
souvent
par exemple
des nuggets, des frites, des pâtes. Voilà.
Ah,
voilà.
Comme un menu enfant au restaurant, quoi.
Voilà, si tu veux.
Mais tu veux dire qu'en fait, les parents, ils préparent deux repas différents pour la famille.
Beaucoup de parents préparent deux repas différents pour la famille. Souvent, pour de la nourriture facile pour les enfants qui sont considérés pas capables d'avoir le même palais que les parents. Et nous, je veux dire que je travaille dans une école, c'est la bataille sans arrêt parce que les parents français veulent que les gamins à midi mangent comme tout le monde. Et les parents américains nous disent non, c'est pas de la nourriture pour enfants. Pourquoi vous leur donnez des salades?
Voilà. Oh là là, mais
donc,
quelle tristesse.
T'es aussi dans une idée où dès que c'est trop compliqué, c'est pas un show pour les enfants, tu vois. Et alors que Prodigy est très clairement fait pour tout le monde, en fait.
Oui, c'est tout public. Hein.
Donc bon, c'est pas. Je pense que le fait qu'il soit sur Netflix va beaucoup changer les choses parce qu'aussi Paramount l'a pas, honnêtement, a pas vraiment marketé cette série au maximum de son potentiel, alors que Netflix va vraiment pousser sur justement le pour les enfants sur Netflix Kids, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment aussi, si tu veux, on dit un blessing in disguise, tu sais, une bénédiction cachée que Prodigy passe sur Netflix, honnêtement.
Ouais, non, mais c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je suis pas sûr que ce soit sur Netflix Kids, mais en tout cas sur Netflix normal, c'est sûr. Parce qu'en fait, sur Netflix Kids, c'est vraiment des trucs pour les tout petits.
Tout petits, ouais.
Parce que moi, il y a des séries, par exemple, une série d'animation comme Hilda, je ne suis pas sûr qu'elle soit sur Netflix Kids. Et tu te dis, bah, c'est bizarre, quoi. Alors, les Netflix Kids, pour moi, du coup, j'ai l'impression que c'est genre des dessins animés pour... c'est la patte patrouille, quoi. Tu vois, mais ça va pas au-delà, quoi.
Arrêtez de dire patte patrouille. Ça me fait marrer à chaque fois. Patte patrouille.
Et même, ça nous traumatise.
Ouais, voilà. Je comprends. Mais c'est vrai que Star Trek Prodigy, ça se voit que Netflix en fait un peu plus la promo, parce que moi, sur mon compte Netflix, vu que je regarde forcément du Star Trek là-dessus, bah, ça m'est tout le temps proposé en me disant « Hey, attention, 1er juillet, nouvelle saison qui arrive. » Tu vois, alors que sur Paramount+, il n'y avait rien. Et puis, de toute façon, en France, alors tu vois, comme je t'ai dit, comme ça a été annoncé sur France Télévisions, qui ne se rendaient pas compte de la pépite qu'ils avaient entre les mains, jusqu'à ce qu'ils reçoivent des mails d'Américains en colère pendant le week-end, vu qu'ils ont balancé ça sur un pauvre post Facebook, rien à foutre. Et même Paramount+, tu vois, en France, Star Trek, la promotion qu'on a eue de Star Trek Discovery, la dernière saison, hein, c'est une capture d'écran de Michael pour le premier épisode, pour l'arrivée de la saison 5, et ils n'en ont plus parlé du tout. Donc, on a eu un post sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, et c'était tout, quoi. Donc, c'est vraiment, en France, pas du tout marketé, mais vraiment pas du tout, quoi.
Mais tu penses pas aussi que c'est la sci-fi un peu utopiste comme ça de Star Trek aussi en France, c'est pas forcément ce qui est poussé?
Bah, je sais pas, Doctor Who, ça cartonne, hein, par contre. Hein.
Ouais. Ah ouais,
non. En fait, il n'y a pas de raison, hein. C'est simplement, moi je pense que le community manager de Paramount Plus en France, il est nul, quoi. Il fait pas les bons choix.
Sachant qu'on a eu pour le lancement.
Non mais c'est vrai, attends, le mec il nous bassine avec la série Knuckles de Sonic alors qu'elle est passée il y a plus d'un mois, quoi. C'est bon, on passe à autre chose. Je pense que c'est les goûts personnels de l'équipe de marketing qui prévaut dans la communication de Paramount Plus en France. Hein.
Alors je ne sais pas toi, ça, Guigui, à Metz, mais à Metz.
Oui,
Metz.
Tu le dis bien, merci.
Voilà. Mais à Lyon, nous, on a eu des 4x3 pour Paramount+, avec Enterprise, avec The Strange New World.
Ouais, mais c'était au lancement de Paramount+, mais depuis, ils font plus rien. Et d'ailleurs, j'ai regardé, je me suis dit, c'est peut-être parce que la série Star Trek Discovery, elle marche pas du tout sur Paramount+, c'est pour ça qu'ils en font pas la promo. Mais pas du tout. De semaine en semaine, elle était toujours dans le top 4 des séries les plus regardées, et même à la fin, elle était en première place pendant au moins un jour ou deux. Donc, ils nous faisaient la promotion de programmes qui sont sur la plateforme, qui ne sont même pas dans le top 10, alors que là, tu avais une série finale, ils en ont quasiment pas parlé. Tu vois, je veux dire, c'est quand même bizarre, quoi. Alors que du coup, effectivement, donc je suis d'accord avec toi, Giraffe, pour résumer, le fait que ce soit sur Netflix risque de changer la donne, parce que le boulot, là, risque d'être fait de promotion, et c'est la meilleure chose, finalement, qui pouvait arriver à la série. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces deux premiers épisodes avant qu'on conclue ?
À part qu'ils sont très très bien pour lancer une saison, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, sans spoiler comme des bâtards.
C'est vrai que... Non, c'est un très bon début de saison. Je trouve qu'on retrouve bien les personnages, on voit comment ils ont grandi et ils ont changé. Peut-être mis à part Dal qui veut toujours pas lire des livres. Mais encore une fois, c'est aussi des personnages qui vont continuer à évoluer de manière intéressante sur la saison. Donc j'ai hâte que tout le monde voit cette saison, surtout certains épisodes, parce que ça fait un moment que je tiens ma langue et j'en ai marre là.
C'est vrai qu'en fait, si on avait voulu pourrir la saison avec des spoilers, on aurait pu tout ruiner en une capture d'écran.
Ah ouais.
Depuis avril, moi, je suis prêt. Hein.
Non, mais c'est vrai. Et merci au Cadran Pop d'avoir quand même le Discord où on peut, où on a pu discuter, oui, et se lâcher, et partager des théories, et etc., etc. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été un travail très solitaire. Mais ouais, voilà.
Et t'as vu qu'on met des balises de spoilers même dans le salon spoiler. Et sinon, avant de se quitter, est-ce que vous avez des promotions ou des recommandations à faire sur autre chose ?
Oui, ma nouvelle vidéo qui est sortie, voilà, qui donne pas mal de petites références pour comprendre tous les petits clins d'œil de Star Trek Prodigy saison 2. Voilà.
Donc, c'est ta chaîne YouTube qui s'appelle
Star Trek Historia.
Et en fait, est-ce que tu auras aussi une version podcast de cette vidéo ou ça sera que de la vidéo ?
Non, je vais sortir une version podcast aussi.
Et toi, Gira?
Ben, nous, on sera tous les jeudis live sur YouTube et puis aussi dans vos oreilles le vendredi avec Strange New Pod. On va faire les reviews, on va faire les reviews de tous les épisodes de Prodigy en espérant que ça ne soit pas à cheval sur la nouvelle saison de Lower Decks cet automne. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez des Français à San Francisco, mais je suis aussi une des invitées de Baycon à San Francisco la première semaine de juillet, et je serai là-bas pour modérer des panels sur Star Trek et les sciences. Et puis je serai aussi à San Diego Comic Con à la fin du mois. Je sais pas si on a un Romain qui se joint à nous, mais voilà.
Ah non, là, cette année je crois qu'il
tout le monde est puni. Ok, bon, bah si vous êtes à San Diego Comic Con, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, et je serai également à Star Trek Las Vegas à la fin du mois de juillet. C'est les mois des conventions, ça va être fatigant, mais on va bien rigoler. Voilà.
C'est clair.
Nous, si on survit déjà au 7 juillet, c'est pas mal.
Ouais,
ouais, enfin, moi aussi, je vote. Hein. Je vote par Internet, moi.
Ouais, d'ailleurs, justement, je voulais en parler. Moi, ma recommandation, c'est ça, c'est d'aller voter. Alors, normalement, le moment où le podcast sort, bah, le premier tour est déjà passé des législatives en France. Donc, on espère qu'il y a beaucoup de deuxième tour plus intéressant que le premier, c'est-à-dire sans le Front National. Donc ma recommandation, c'est de voter à gauche, bien sûr, parce qu'on imagine que si vous écoutez Star Trek, bah, vous n'êtes pas des fachos. Mais si vous hésitez quand même, bah, franchement, il faut quand même vous dire que la plupart de tous les partis qui existent, ils sont tous problématiques, mais il y en a quand même un qui est plus problématique que l'autre. Et il y en a donc un pour lequel il faut vraiment faire barrage, peu importe pour qui vous allez voter, il faut vraiment faire barrage contre le Front National. Donc c'est celui-là, le parti le plus problématique qui existe de par son histoire, de par, de par son programme, de par ses militants. Je ne crois pas qu'il y ait un autre parti politique où il y a autant de problèmes et qui soit aussi problématique et aussi dangereux pour notre pays. Donc voilà.
Et parce que Girafe, elle veut garder sa nationalité française aussi, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi cette histoire de double nationalité qui dégage? Oui, tout à fait. Un exemple parfait. Merci, Girafe. Tu soulignes bien mon propos, donc vraiment, déconnez pas, les gars.
Sinon, Guigui, tu sais que 2024, c'est l'année des Bell Riots, hein. Donc,
c'est vrai. Non, mais
on a l'opportunité de rejoindre Star Trek, là. Hein.
Les émeutes de Bell, c'est vrai qu'il me semble que dans l'épisode de Deep Space Nine, il est dit que c'est aussi la merde en France.
Oui.
Oui. Donc, voilà. Donc, oui. Ouais, ouais, là, on rejoint de plus en plus Star Trek, et donc ça veut dire que bientôt la Troisième Guerre mondiale, donc ouais, j'espère pas trop quand même. J'espère que donc du coup ça va s'arrêter le 7 juillet de manière satisfaisante pour nous en tout cas. Donc voilà, et on vous retrouvera j'espère dans de meilleures conditions dans le mois de juillet avec notre épisode notre podcast sur Star Trek Prodigy saison 2 qui fera justement ça sera un gros podcast avec toute l'équipe où là on reviendra sur l'ensemble de la saison 2 et pas comme d'habitude où on fait épisode par épisode, là ça sera plutôt arc de personnage par arc de personnage.
Ooh.
Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
À bientôt.
Au revoir.
Fêter les 15 ans du film Star Trek de 2009 qui a relancé la franchise, nous allons le projeter lors d'une séance spéciale le samedi après-midi 21 septembre 2024. Et bien sûr, comme précédemment, nous allons vous préparer tout un tas de surprises et d'animations pour en faire un moment Star Trek inoubliable. Il y aura bien sûr la projection du film en version originale sous-titrée, mais aussi un enregistrement en public du podcast d'analyse avec mon équipage d'élite, avec bien sûr Manu, Marina, Romain Bramy, Romain Nigita et Marie-Paul. Tout ça au cinéma Le Club à Metz dans une ambiance très décontractée. Programme complete.